Nous sommes mercredi 18 avril 2018, il est 21h01 et 30 secondes, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Ben, je te laisse continuer, on fait des parties. Ils vont tous les faire. Un jour, il faudrait que je mette un thème d'intro surprise. J'en ai fait deux ou trois des thèmes d'intro surprise, mais il faudrait que j'en mette un thème d'intro surprise qui fait que vous soyez vraiment surpris et que vous passeriez vraiment pour des gros glands. Voilà.
On passera pour des gros glands que au montage, c'est ça l'avantage.
Ah oui,
parce qu'on le découvrira après.
Vous ne le saurez pas en direct. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton. Ah, la deuxième. Et bonsoir Zergy.
Salut.
Ce soir, nous allons parler de Johnny.
Ah, que Johnny.
Et Spike. Spike, qui, je rappelle, est le vampire antagoniste de Buffy.
Et le héros de Cowboy Bebop.
Ah merde, tiens, je savais pas. Tiens.
Nice.
Bien joué. Donc, belle référence. Pas du tout. On va parler en fait d'archétypes de joueurs et on va repartir d'une base qui a été pensée, on va dire, par ces messieurs de. Les créateurs de Magic the Gathering, Magic
Wizards of the Coast.
Wizards of the Coast. Et on va repartir de là pour essayer de voir si ça peut s'adapter à tous les types de joueurs, à n'importe quel type de jeu, et ainsi de suite. Donc on va faire une émission dans laquelle on va pas se concentrer sur un jeu, ou sur des jeux, ou sur un élément de design pour une fois, mais on va s'intéresser aux joueurs. C'est-à-dire on va passer de l'autre côté de la manette.
À toi, public.
C'est chaud.
À défaut de passer de l'autre côté du micro.
Oui, mais ça...
Parce que ça fait mal.
Ça dépend où tu mets le micro.
Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Bref, mais d'abord, nous allons commencer par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Et il y a Monsieur Drosgar qui avait des choses sur les British... c'est quoi, British Academy Games Award.
C'est ça, les BAFTA, du coup.
Will Game.
Donc, quoi?
Will Game, alors, là-dedans.
BAFTA,
BAFTA Games. En fait, le problème, c'est que suivant les sites, par exemple, il y a jeuxvideo.com qui dit que ça s'appelle BAFTA Games Award. Après, il y en a d'autres qui s'appellent juste BAFTA. D'autres juste. Comme si Games Award était déjà inclus dans le nom.
Ah oui, non, mais
on va dire que.
BAFTA, c'est le British Academy of Film and Television Arts.
Oh, c'est
voilà.
Beau.
Donc, donc en fait, BAFTA, c'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, effectivement, ça peut être les BAFTA Games Awards.
Donc,
les
BAFTA
British
Games
Academy
Awards.
And Film and Television Arts Games Awards, qui est quand même pas du tout long à dire.
Et ce qui fait surtout très pompeux.
À ne pas confondre avec les BAFTA Games Awards.
Mais avec cette longueur-là, c'est bien, ça fait titre de jeux vidéo japonais.
C'est ça, sauf
Final
que
Fantasy
c'est britannique.
Crystal Chronicles.
Et du coup, en fait, c'est une petite cérémonie qui a lieu tous les ans depuis 2004, qui vient récompenser les meilleurs jeux. Et comme, du coup, c'est appelé dans le titre, hein, le meilleur jeu sera forcément un jeu britannique. Donc cette année, ça a été...
Genre de Zelda.
Pardon ? Ah non, oui, non, c'est vrai, c'est le genre de Zelda, il est quand même bien placé, avec la meilleure innovation, ce qui est étonnant, comme on disait justement off juste avant, parce qu'il est pas si innovant que ça, même si il m'a dit très bien
les
différents éléments de gameplay.
Cassent, les mecs qui cassent du sucre sur le dos de Zelda, alors qu'ils ont tous kiffé leur maman, en fait, Miyamoto, il a trop fait de vous ses bitches, quoi, et vous êtes là, genre, ah non, c'est pas si innovant, c'est un peu de la merde.
Ça vaut un 7 sur Gamekult.
Il y a plein d'idées que tu peux retrouver ailleurs, indépendamment, c'est juste qu'ils ont tout mis ensemble, et ça marche super bien.
Et qu'ils ont mis ensemble ça correctement.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que c'est une réelle innovation, en fait? C'est plutôt ça. Est-ce que le titre de l'Awards est bien mérité?
C'est-à-dire que, en fait, le plus important, c'est pas qui l'a fait le premier, c'est qui l'a fait le mieux. Et de ce point de vue-là, on peut considérer qu'effectivement, The Legend of Zelda Breath of the Wild n'est peut-être pas le jeu le plus innovant, au sens où c'est pas lui qui a apporté de toutes nouvelles mécaniques de jeu complètement révolutionnaires,
mais
c'est lui qui a tout fait le mieux.
Ouais. Ouais.
D'une certaine manière, c'est aussi une innovation.
En fait, texte dans une grande aventure cohérente, et c'est ça en fait qui est très très fort, parce que tu prends les interactions entre les éléments, je pense la partie vraiment la plus innovante de Zelda, je pense que si tu peux trouver ça dans un jeu AD, c'est juste que lui il l'a mis à l'échelle d'un monde et d'une aventure, et c'est ça qui est extraordinaire en fait.
Voilà, ça résume à mon avis très très bien The Legend of Zelda. Bref, les autres titres qui nous intéressent qui ont été primés, donc pas les jeux anglais.
Non, parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Il y a eu Super Mario Odyssey, qui a eu deux prix, meilleur game design et meilleur jeu familial. En fait, le terme de jeu familial, à mes yeux, il est un peu étrange, parce que c'est vrai que c'est un bon jeu pour toute la famille, mais enfin moi lorsque j'entends un jeu familial, je pense plutôt à un jeu à jouer avec la famille.
Genre et le Monopoly si... en même temps, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. Et même si Mortal a l'habitude de jouer avec ses enfants, ou par exemple il va maîtriser la casquette et ses petits vont jouer justement avec Mario, c'est pas forcément le jeu qui s'y prête le mieux à mes yeux. Mais je suis pas encore père, donc forcément je suis peut-être un peu biaisé là-dessus aussi. Mortal.
Excuse-moi, j'ai été pris par un problème technique sur la console,
enfants.
Je suis désolé.
Non, mais j'ai dit que ta fille jouait la casquette.
Oui, ma fille joue la casquette ou le comment dire, ça dépend. Elle peut jouer la casquette
ou Mario.
C'est intéressant. De temps en temps, elle joue Mario et en fait, elle a fini par jouer toute seule et par apprécier le fait de jouer Mario toute seule comme une grande.
Ouais. Oui, au alors final, par contre, elle le fait en mode.
Voilà, en fait, c'est pour l'aider au départ, pour comprendre un peu la mécanique, même si, en fait, ça lui pose pas trop... Elle a torché Super Mario 3D World, y compris les mondes un peu raides, donc ça va. Le seul truc, c'est qu'elle joue en mode assisté, elle joue en mode facile, en fait.
Oh non.
Bah, elle est petite, quand même. Donc,
elle a quel âge, 6 ans ?
Elle a presque 6 ans.
Oh, d'accord.
Par contre, à Mario Kart, si tu veux, te mets à branler.
Oui, oui, en plus, elle met pas l'assistance, non ?
Alors, elle met pas l'assistance, et là, elle a attaqué le 150cc, hein.
Formidable, j'ai hâte de me faire poutrer par une gamine qui a 4 fois de moins mon âge.
Humiliation.
Qui a même pas 6 ans et qui, franchement, à Mario Kart, je la trouve impressionnante parce que le jeu est pas toujours super lisible, hein, faut quand même le dire. Et j'ai déjà vu des adultes galérer sur certaines pistes parce que c'est pas évident d'arriver à suivre exactement la piste. C'est simplement la question de la lisibilité de la piste. Et elles n'ont rien à foutre. Sachant qu'elle dérape très peu, donc elle prend vraiment des trajectoires pile comme il faut, elle décélère au bon moment, elle fait des décélérations, ce que je trouve hallucinant, mais... Et ça marche.
Le jour où elle va déraper, ça va être affreux.
Le jour où elle va déraper, je pense que le 150cc, elle va le prendre, elle va le retourner.
Donc juste pour conclure avec les BAFTA Games Awards, le meilleur jeu a été What Remains of Edith Finch, donc je pense que vous en avez entendu parler, c'est la sorte de Walking Simulator, pour parler un peu grossièrement. Avec plein de petites histoires courtes qui a été développée par Santa Monica Studio, SCE Santa Monica Studio. Et voilà, étrangement, le jeu qui a reçu le plus de récompenses, c'est Hellblade Senua's Sacrifice, mon accent est toujours aussi bien, un jeu britannique qui a reçu meilleure réalisation artistique, meilleure réalisation sonore, meilleur jeu britannique, c'est normal, meilleur jeu dépassé en divertissement, ou encore la meilleure actrice pardon, pour Melina Jurgens. Jurgens ? Ouais, Jurgens, c'est bien.
Jurgens,
c'est peut-être mieux, ouais.
Mais du coup, est-ce qu'il a aussi reçu le prix du jeu le plus chiant ?
Eh ben, c'est dommage qu'il n'existe pas, parce que ça aurait été bien pour lui.
Et voilà, boum ! Bon, voilà, ça me fait plaisir. C'est pour
pourtant
moi.
Que Xenoblade 2 est sorti la même année, hein. Et
boum !
Ah, le bâtard !
Ben, j'en sais quelque chose.
Tu peux t'infliger ça.
Oui, ben, bon, après, c'est soit je le fais comme ça, soit je le ferai jamais. Donc,
c'est les mini-shorts de Pyra qui te donnent envie de continuer de jouer ?
Non, j'ai envie de savoir ce qu'il y a sous la combi de Nia, mais j'ai peur d'être déçu.
Oui.
Bref. Mecton, qui a un petit retour sur quelques trucs d'actu qu'il avait...
Ouais, vite fait. Donc la semaine dernière, vous êtes foutu de ma gueule en disant que la collector de Street Fighter chez Pixel Love n'intéresserait probablement pas grand monde.
Ah, j'ai réécouté, non. On s'en est pas foutu de ta gueule.
Ah, je sais pas. Okay. Bah, c'était peut-être en off, je sais plus.
Oh, c'est tellement souvent de ta gueule que c'est facile aussi. Hein.
Bah, de toute
façon, off ou en
on,
mais ça peut être toujours pareil.
Oh, les bâtards. Bon, bref, c'était censé être ouvert à la précommande à 10h. J'étais en congé ce jour-là, je me suis réveillé à 10h30. A priori, à 10h, le serveur était down. À 10h30, je me connecte pépère, je prends ma version Switch. 2 minutes après, en rupture. Impeccable, je suis content. Vous aurez bientôt le test du livre avant que je range le jeu.
Street 3, il est très bien.
Là, c'était surtout pour dire, voilà, la version Switch est donc en rupture, pardon. Alors que la version PS4 et Xbox One, pas encore. Alors, je n'ai aucune idée des tirages, mais si c'est à tirage équivalent, il se passe vraiment quelque chose avec cette petite console.
Alors, tirage pas très élevé, je crois que c'est de l'ordre de la centaine.
Ouais, mais je sais pas s'ils ont fait une centaine pour chaque ou si la version PS4 et Xbox n'intéresse personne. Bref.
Il est bien possible que la version PS4 et Xbox n'intéresse personne.
J'en sais rien.
Parce que la Xbox et la PS4 n'intéressent personne.
Et oui, l'autre petit retour, c'était un petit coucou aux équipes de No Life. Donc on a fait toute une émission pour parler de la triste fin de cette chaîne. Pas la fin, enfin... Le fait que ça s'arrête qui est triste, hein, pas la fin qui était triste. Au contraire, la dernière émission était vraiment, vraiment très, très cool. Voilà, donc je voulais juste rappeler la définition de passion. Ce n'est pas ce qu'en pense Julien Siez, par contre c'est ce qu'en pensent les équipes de la chaîne, parce que même morte depuis une semaine, il continue à balancer des contenus inédits.
Ce qui est quand même assez ouf.
Mais Julien Siez, même mort publiquement, il continue à faire des vidéos sur YouTube.
C'est ouf. Mort cérébrale.
Boum, ça taille sec.
J'attends la vidéo, j'ai quelque chose à vous dire.
Ils sont allés très loin, la soirée était classe, donc on a eu la fin de Collector's Quest, trois nouveaux Super Play. Alors les annonceurs sont partis, donc il n'y a plus qu'une seule pub qui tourne en boucle sur la chaîne, ils sont allés jusqu'à en faire une parodie. Den Jingle Zombie, où tu vois le président de la chaîne qui est en train de chercher des trucs sur Pôle Emploi TV, enfin, vraiment la classe.
Putain, les mecs se prennent, enfin même dans la, finalement même dans le truc le plus triste qui puisse leur arriver, les mecs se prennent toujours pas au sérieux et,
ouais, non, c'est vraiment
et vont
cool.
toujours à fond dans le truc, et ça c'est quand même très cool. Monsieur Antix voudrait nous faire un petit retour sur un documentaire d'un Drop dans la Marche. Un Drop dans la Marche, ça doit faire genre 3-4 ans que je les ai pas regardés, donc je savais même pas qu'ils existaient encore.
Ah si, ils sont bien vivants, ils ont arrêté de faire 2 minutes pour convaincre. Maintenant, en fait, ils vivent grâce à leur... je crois que c'est un Tipeee ou un Patreon, j'ai oublié lequel des deux. C'est un truc du genre. Ils font leur émission... Enfin, ils font une émission bi-hebdomadaire de Commente l'actu. Et surtout, avec leur Tipeee, ils ont financé un documentaire d'environ une heure qui s'appelle Confidence et qui a été publié, je crois, alors si je dis pas de bêtises, dans les derniers mois, qui a été publié en mars, en fait, sur leur chaîne YouTube. Et en fait, qui s'appelle Confidence, et qui est tout bêtement un documentaire sur l'état du jeu vidéo en France durant 2016. Donc ils vont voir différents intervenants, on retrouve notamment Fibre Tigre, Julien Villardieu, qui est le président du SNJV, comment il s'appelle déjà, Yvan Godet, qui est le rédacteur en chef de Canard PC, ou je sais plus s'il est rédacteur en chef, ou
enfin, ancien rédacteur en chef. Que c'est rédacteur en chef, non, rédacteur en chef pour moi.
Enfin, voilà, ils vont interviewer 7 personnes du jeu vidéo sur différents sujets d'actu à l'époque, donc que ce soit la VR, le mode de vente, l'évolution des mentalités et tout. Donc c'est à peu près une heure de documentaire divisé en deux sur la chaîne YouTube. Et c'est très intéressant, écoutez ce qu'ont à dire tous ces professionnels, sachant qu'on a donc autant du développeur que du journaliste que du représentant patronal. Et je vous conseille, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est, pas l'aspect business, mais l'aspect en tout cas marché du jeu vidéo.
D'accord, c'est une belle recommandation. On essaiera de suivre, surtout un documentaire d'une heure, ça se regarde quand même relativement bien. Je vais finir par une petite actualité... Enfin, qui moi me fait plaisir, le développeur principal de Wave Race a dit qu'il verrait bien la série revenir sur Nintendo Switch, en fait, ça lui ferait très très plaisir. Alors évidemment, c'est pas une vraie annonce de « ça y est, Wave Race revient », puis Wave Race, ça a peut-être pas parlé à grand monde, c'est-à-dire que j'ai Mecton, je pense que oui, ça devrait à peu près parler, Zergy, ça devrait à peu près lui parler aussi.
Ouais, ouais, tout à fait.
Antix.
Ramener 1080 degrés aussi.
Ouais, voilà, 1080 degrés, je suis pas sûr. Les jeux de snowboard, je pense que c'est vraiment...
Wave Race, j'y avais joué. J'ai joué la version GameCube, la version Blue Storm.
Oui, voilà.
Très réputé pour son rendu de l'eau d'époque qui était assez
bizarre. Qui est voilà. Toujours assez impressionnant aujourd'hui, en fait.
Même celui sur N64 était impressionnant.
Ah, sur N64, il est particulièrement impressionnant pour l'époque. Maintenant... Quand t'as une console qui est branchée en RGB et que t'as un bon upscaler, tu vois en fait que la limite de la distance d'affichage de l'eau, elle est quand même pas si élevée que ça. C'est assez marrant à voir, t'as vraiment une espèce de rond autour de toi, de flotte qui se déplace, c'est quand même assez fun. Enfin voilà,
Bah après, c'est triste, mais c'est
logique.
C'est les astuces d'époque, et on les voit maintenant parce qu'on a des trucs 16:9 sur PC, mais en fait, à l'époque, sur une télé 4 tiers, ça passait tout seul. Hein.
Bah, c'est surtout sur une télé 4 tiers branchée en composite, le flou, si tu veux, général du composite faisait qu'à distance, ça faisait parfaitement illusion.
Mais c'est ça, mais ça, faut se dire que c'est des trucs qui c'est des astuces d'époque, mais qui marchaient parce que le matos d'époque était comme ça. Hein.
Tout à fait, même l'affichage était comme ça, c'est pour ça que le dithering, l'effet de quadrillage que tu avais dans certains jeux pour simuler la transparence, ça marchait vachement bien à certaines époques, parce qu'effectivement, en composite, l'image était suffisamment floue pour que ça donnait l'impression de transparence, et qu'aujourd'hui, dès que tu le mets en RGB avec les quadrillages super, super précis et tout ça, bon là, c'est fini, quoi, l'effet perd tout son charme. Donc voilà, Wave Race pourrait revenir. Ça fait partie des franchises de Nintendo qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps. Et c'est vrai que ce serait quand même super, super, super intéressant. Ce serait quand même super intéressant de le voir revenir parce que ça fait des jeux d'arcade vraiment sympas à parcourir. Alors effectivement, c'est pas des jeux super profonds, mais t'as quand même un gameplay ultra rodé. T'as en général des surtout pour Wave Race, mais c'est valable aussi pour 1080 qui est un peu son pendant. Wave Race dans la neige finalement.
Parce que tu peux le dire.
La même équipe en fait.
C'est son pendant au jeu de snowboard.
C'est un peu ça, c'est les jeux de sport de Nintendo qui sont pas juste des Mario Sport, mais qui sont des jeux qui se veulent peut-être un tout petit peu plus réalistes, et j'ai bien dit un tout petit peu plus, parce que c'est quand même extrêmement arcade, mais sans tomber dans les délires à la Sega, où le truc est tellement arcade que ça en devient jouable. Là, ça demande quand même de la précision, ça demande quand même de la finesse.
On parle de jeux avec des personnages réalistes, quoi, du coup, enfin c'est pas...
Voilà, c'est ça, c'est pas Mario sur un jet ski, quoi.
Ouais, on me glisse, donc Tenshin, coucou, qui est en train de nous écouter. Pour lui, 1080, ça a pris un sacré coup de vieux depuis l'arrivée de SSX.
Alors, personnellement, j'ai jamais été un grand fan de SSX pour tout un tas de raisons. Donc, 1080, ça m'allait très bien. Mais Wave Race reste toujours une référence en la matière. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux, de toute façon, de jet ski.
Pas eu d'autre chose, ouais.
Et la physique du jet ski est quelque chose de vachement intéressant parce que tu peux pas tourner instantanément. Tu es obligé d'être sur l'eau pour pouvoir tourner. Enfin, il y a plein de trucs vachement intéressants dans le gameplay, vachement plus fin que ce qui a l'air au premier abord. Et qui rend le jeu, qui fait tout le sel du jeu. Peut-être qu'un jour on fera une émission spéciale sur Wave Race et sur 1080, parce qu'il y aurait quand même pas mal de choses à dire.
C'est aussi le genre de jeu qui est parfait pour faire des démos techniques, parce que les éléments comme l'eau, la neige, ça fait partie des trucs qui font que, on a quand même plus de puissance. Et voilà ce qu'on peut faire maintenant avec des éléments qui sont réputés pour être compliqués à gérer, que ce soit les traces dans la neige pour que ça ait l'air réaliste, ou les mouvements de l'eau. Tout bêtement.
Tout à fait, oui. Ou les traces dans la poudreuse, ou le fait que tu aies des effets de particules, parce qu'évidemment, t'en as un peu partout. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des belles démos techniques, et ça reste des jeux arcade fun, sans être trop prise de tête, et avec quand même un bon niveau de technicité requis de la part du joueur.
C'est le genre de jeu qui serait très bien en jeu eShop. Alors je sais que Nintendo le fait pas beaucoup, parce qu'ils veulent vendre en boîte, en boutique. C'est le genre de jeu que tu peux ressortir sur une plateforme de téléchargement. T'as pas obligé d'avoir un gros budget du coup et de le vendre très cher. Et tu peux faire un truc plutôt focus multijoueur, tu vois, sans avoir forcément besoin d'une campagne solo, ce qui réduirait le développement, mais permettrait quand même d'avoir ce genre de jeu à disposition.
Oui, effectivement, oui, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être fait, une espèce de mini Wave Race. Monsieur Zergy, tu voulais dire quelque chose en ta...
Oui, en parlant de jeu d'arcade exigeant, il pourrait peut-être sortir F-Zero.
F-Zero qui est un petit peu le 1080 mais dans l'espace.
Bah c'est aussi un peu une démo technique parce qu'avec cette vitesse là et ses effets de lumière.
Ouais mais bon, on attend F-Zero GX HD qui arrivera peut-être un jour puisqu'il n'y a pas grand chose de... Voilà. Ce serait quand même intéressant d'arriver à le faire. On va finir juste avec le petit tour de table de l'actu du dojo hein, où Mecton nous a fait un magnifique déballage des céréales Mario qui sont dégueulasses.
Hein, putain mais elles sont atroces. Je viens de retaper dedans, là, ça...
elles sont juste hyper sucrées, en fait.
Ouais, mais même...
Bienvenue sur la bouffe US. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça.
On veut l'avis du diététicien.
On veut l'avis du...
Il en est mort.
Alors, bah, mange des vrais champignons, c'est ça, son avis.
Voilà, je vous invite à essayer de battre le super play de Mecton.
Ouais, hein, je pense qu'il est prenable.
Le labyrinthe, mais... je pense qu'il est prenable. Franchement, 13,49, c'est ça.
14,37 de mémoire.
14 secondes 37. Alors avec un peu d'entraînement, un petit peu de connaissance du terrain, ça reste quand même assez prévisible.
Hein, ah, il y a peut-être un skip faisable.
À la prochaine HDQ.
Ouais. tu penses que tu peux glitcher pour passer entre les murs hein.
Ouais, il y a moyen. Il y a peut-être un skip à faire.
Entre deux frames.
Tu plies le carton pour aller plus vite à la sortie.
Ah putain, bug exploit.
Ça c'est du beau glitch.
Bon, c'est n'importe quoi. Bref, comme vous le savez peut-être, Wild Guns Reloaded vient de sortir sur Switch. Il est sorti sur l'eShop et il est sorti en version boîte aux États-Unis.
Boîte.
Personnellement, j'ai commandé la version boîte aux États-Unis sur PlayAsia, la version boîte. Qui va arriver normalement au courant de la semaine. Et donc je me suis dit, tiens, on s'écouterait pas un petit peu de la BO de Wild Guns Reloaded, qui sont en fait des remixes
du bon, la brute et le truand
d'origine. Non, pas du tout, de la version d'origine de Wild Guns. Des remixes que je trouve sympathiques, mais un peu moins punchy. Je sais pas ce qui fait ça, mais c'est vrai que je trouve que le son est un peu plus étouffé, un peu moins clinquant. Alors la Super Nintendo a ce côté un peu... On peut faire des sonorités très aiguës, très expansives. Et là, j'ai l'impression que le truc est un petit peu plus... Certains diraient symphonique, c'est probablement fait avec des vrais instruments et pas juste des samples. Mais du coup, ça rend un peu moins, ça donne un peu moins de peps. Mais néanmoins, ça reste quand même une excellente BO. Et donc, on va écouter le morceau qui s'appelle Desolation Canyon, qui correspond en fait au niveau 3 du jeu, si vous les faites dans l'ordre classique. Voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Bon, vous inquiétez pas, je vous débrouillerai au montage pour mettre la version où vous rotez.
Ah, que Johnny.
Vous avez raté, non mais pour les gens qui nous écoutent en direct, vous avez raté un truc complètement délirant. Je veux dire, il y avait des hélicoptères, des stripteaseuses.
Et les bouches.
Trump est arrivé.
Voilà, Trump est arrivé, il dit « Oui, je vais attaquer le Courage Nord. »
Meilleur retour jamais.
Voilà, c'était le meilleur retour qu'on ait jamais fait. Malheureusement, j'avais pas appuyé sur le bouton mute. Voilà.
C'est dommage.
Erreur de débutant. Hein. Ouais, non, mais c'est dommage parce que je pense qu'on avait vraiment le retour complètement ouf.
Ouais.
Voilà, du coup, je sais pas quelle version je vais garder avec ça, parce que là, on a deux trucs bien. Quoi. Bref. Alors, on trêve de conneries. Merci aux gens qui ont signalé qu'on nous entendait plus.
Parce que, yes,
merci. Je l'avais pas vu sur la console.
Ça a évité qu'on parle dans le vide.
Mais c'est pas grave parce que c'est enregistré. Donc, au pire des cas, au podcast, on aurait pu le rattraper. Mais c'est vrai que pour le direct, c'est un peu embêtant. Donc plutôt que de parler de jeu ou de game design ou d'un jeu en particulier, nous allons parler de joueurs et d'archétypes de joueurs. Et on va partir d'un exemple qui a été fait par les mecs de Magic l'Assemblée, donc Wizards of the Coast, qui sont les gars qui ont créé le jeu Magic the Gathering.
Les je rappelle... magiciens de la côte ouest, ouais.
West Coast Wizard représente. Voilà. Non, ça suffit maintenant. Qui en fait, eux ont créé un jeu qui est un jeu de duel en 1 contre 1.
Qui coûte cher.
Qui peut éventuellement coûter cher, ouais. Mais ça c'est quand t'achètes beaucoup de cartes. Mais voilà, c'est un jeu de duel en 1 contre 1, donc.
Bah, pas forcément 1 contre 1 du coup. Mais...
Ah, il y a plus que 1 contre 1, on peut faire du 2 contre 2.
Ah bah, je crois qu'il y a des variantes officielles de 2 contre 2 et 3 contre 3. Hein.
Ah ouais ? Ah, je savais même pas. Je pensais que c'est... Enfin, j'ai jamais joué à Magic.
Ouais, il y a le 3, la 2 têtes, des trucs comme ça.
La base c'est le 1 contre 1, mais c'est facile de mettre en place des variantes en.
Oui, je me doute que c'est facile, mais bon, voilà, à l'origine, c'est quand même...
C'est pensé pour du duel.
Bah, c'est pensé pour du duel relativement équilibré, je suppose qu'un contre deux, c'est un peu...
Ouais, nice.
Oh, putain.
On a dû mettre ça comme jingle, pour le tour.
Tour.
Bref.
Bah.
Donc, les mecs de Magic the Gathering ont fini par se dire ce serait intéressant qu'on arrive à catégoriser les joueurs, c'est-à-dire à avoir, finalement, à savoir quel type de joueurs on a, quels grands archétypes de joueurs on a. Bien évidemment, enfin, ils ont créé du coup trois joueurs, qui sont trois joueurs types, qui sont des joueurs de Magic, mais vous allez voir qu'on peut très facilement aller étendre ça à d'autres types de joueurs. Évidemment, après, ils ont dit, bah voilà, il y a le premier joueur tendance deuxième, deuxième joueur tendance troisième, et ainsi de suite. Il y a évidemment tous les mélanges possibles.
D'ailleurs, ce qu'ils avaient une tendance à dire, c'est que très peu de joueurs ne sont que d'un archétype, et en fait, la très grande majorité sont une combinaison des deux. Enfin, de deux des trois.
Une combinaison d'au moins deux.
Rarement les trois. Mais souvent au moins un des deux, avec une tendance majoritaire pour l'un des deux.
Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ces trois grands archétypes, on va essayer de les décrire, interracial, mec, t'as oublié.
Merde,
discrimination, mélange ethnique, il manque interracial, mon gars. Voilà, donc il y a de l'interracial de type de joueur. Attendez. Non, cette phrase ne sert à pas du tout.
Oula, ça commence à mal ça partir. Hein.
Alors, le premier type qui est décrit, c'est Chimé. Cette blague est obligatoire. Timmy, c'est ce qu'ils appellent le power player. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le joueur qui joue pour le fun. Et quand il gagne, il aime gagner très largement. Il aime vraiment écraser ses adversaires. C'est le joueur qui adore...
Le gros con, quoi.
En fait, c'est aussi le joueur qui aime bien les cartes, puisqu'on va parler des cartes magiques, les cartes qui en jettent, qui font des gros dégâts.
C'est
ça. Qui donnent l'impression vraiment d'être balèze.
C'est un gros bill.
Ouais, c'est... Non, mais c'est exactement ça. C'est un joueur
qui joue que des PS, quoi. Il aime pas autre chose.
En termes de Smash Bros, c'est le mec qui joue Ganondorf ou Roy.
Ah putain, oui, c'est ça. Ouais,
mais c'est exactement voilà, les parallèles, c'est exactement ça. C'est les gens qui aiment jouer les personnages puissants, les attaques puissantes et ainsi de suite. Et justement, Drosgar, c'est pas forcément des gens qui jouent les DPS. C'est des gens qui préfèrent finalement faire une énorme attaque super impressionnante toutes les minutes.
Ouais.
Plutôt que de faire une petite attaque ridicule, visuellement pas impressionnante, pas rigolote, machin, tout ça, mais qui fait de beaucoup plus gros DPS si tu reviens à ça.
Ouais. Il préfère une grosse tous les 6 mois qu'une petite tous les jours.
C'est exactement ça. Non mais voilà, alors les DPS, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les dégâts par seconde, donc dans beaucoup de jeux type RPG, c'est ce qui va permettre de qualifier la quantité de dommages qu'on est capable d'infliger
à l'aide du kikimeter.
En unité de temps. Ce qui est quand même le plus important, c'est-à-dire que si tu arrives à faire 2000 de dommages en une minute, c'est vachement intéressant. Si tu fais 1500 de dommages en une minute, c'est moins intéressant. C'est bien la quantité de DPS de dommages par seconde. Un joueur qui est un Timmy, en toute logique, va préférer faire 3 attaques à 500 en une minute plutôt que de faire 10 attaques à 200 en une minute. Si l'attaque à 500 est plus impressionnante, plus grosse, plus... voilà.
Taper. Faire mal.
Voilà, c'est le genre de joueur qui préfère faire des victoires qu'il considère de qualité plutôt que de faire, finalement, beaucoup de victoires. Donc, il va pas gagner beaucoup de matchs, mais ce qu'il va gagner, avec panache, en gros, il va gagner en gagnant vraiment gros, en écrasant complètement son adversaire.
Et Timmy, surtout, c'est ça. Surtout, il y a un point qui est important qui était abordé dans l'article du mec de Magic, c'est qu'en fait, surtout, le Timmy n'est pas un joueur qu'on pourrait croire qu'il est mauvais perdant. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un de social et qui est avant tout là pour s'amuser. On a dit qu'il préfère gagner largement, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais perdant et qu'il veut absolument détruire son adversaire.
C'est un peu un mauvais perdant.
Mec qui a envie de s'éclater, en fait, tu vois.
C'est pas,
et d'éclater les autres.
C'est pas exactement, mais c'est pas forcément un mauvais joueur.
Non, justement, pas tant éclater les autres que de le faire avec une forme de style, mais le faire avec des sons et lumières, quoi, tu vois.
C'est un peu ça, c'est le joueur qui aime gagner avec panache, c'est-à-dire que c'est
l'important. C'est le mec qui spam Falcon Punch dans l'espoir de toucher quelqu'un.
C'est exactement ça.
Quand il gagne, il y a des lunettes qui lui tombent sur le nez et il y a une explosion derrière. Quoi.
C'est exactement ça.
Et il y a écrit What up, bitch. Donc voilà. Mais voilà, c'est pas forcément un joueur arrogant, effectivement, c'est un joueur plutôt sociable. Et c'est un joueur qui aime bien. Ça ne le dérange pas forcément de perdre, mais par contre, quand il gagne, il aime bien gagner. Voilà, c'est le joueur de FIFA qui aime bien gagner 7-0.
Fatality.
Voilà, il va pas gagner tous les coups 7-0. C'est le joueur de FIFA qui préférera aller, par exemple. Je trouve que c'était un bon exemple sur FIFA parce que je connais des joueurs comme ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va plutôt avoir tendance à faire des frappes très impressionnantes de très loin. Donc il va marquer très peu parce qu'en réalité, t'as assez peu de chances de marquer comme ça. Mais quand il marque, si tu veux, le but est tellement impressionnant, c'est tellement la grosse caouette qu'il est super content, même si derrière il perd le match, c'est pas grave. Il a fait un ou deux très 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 beaux buts, et finalement, pour lui, ce qui compte, c'est ça, c'est les belles actions, les trucs vraiment qui ont de la gueule, qui en jettent, qui sont très puissants, qui sont pas forcément faciles à faire. C'est pas forcément le fait d'aller gagner à la fin. Gagner à la fin, c'est presque du bonus. Finalement, c'est presque le bon joueur par opposition au mauvais joueur au sens type, c'est-à-dire le mec qui va plutôt être très fair-play, mais qui aime bien quand même te mettre une grosse carotte au milieu de la partie pour te faire peur. Voilà, le deuxième archétype de joueur, alors c'est pas dans cet ordre-là que les mecs les ont créés, ce qui est rigolo, c'est que c'est dans cet ordre-là qu'ils les expliquent, parce que c'est le plus simple à comprendre, en fait. Je trouve ça assez marrant.
Ils les ont nommés aussi.
Et ils les ont nommés parce que c'était plus simple pour eux, je crois. Ça permettait d'avoir de les humaniser un petit peu. Donc le deuxième archétype de joueur, c'est Johnny.
Web Tick 2000!
Ah, que Johnny! Tu m'attendais
à ça. Il est où mon héritage?
Ah, oh bien, ouais. Drosgar, 2 points.
Yes! Je suis à moins 12.
Vous savez que tu reviens loin. Hein.
Donc, Johnny, c'est le. Alors, c'est ce qui a. C'est ce qui a aussi été donné comme étant le trick player. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le joueur qui aime gagner. Mais qui aime gagner, alors on disait avec panache tout à l'heure pour Timmy,
là
Johnny c'est avec le style, il aime bien baiser le game, il aime bien, c'est le joueur rusé, c'est le joueur malin, c'est le mec qui va créer, pour Magic en tout cas, qui va créer ses propres decks avec ses propres idées. C'est le mec qui trouve que c'est aussi fun en fait de jouer à un jeu que finalement de créer des manières d'y jouer.
Essayer de le tordre, ouais.
D'essayer de le tordre, d'essayer, voilà, c'est le mec qui va aller chercher des bugs dans un jeu.
En fait, c'est un joueur qui est plutôt créatif, et clairement, c'est genre un speedrunner, quoi.
C'est ça, c'est le gars qui va essayer de trouver des stratégies pour aller skipper telle ou telle partie du jeu. C'est le joueur qui va prendre du plaisir à aller effectivement casser certaines mécaniques de jeu en faisant pas du tout ce qu'on lui demande. J'ai un de mes colocs qui était très comme ça, c'est-à-dire qu'on jouait à je sais plus quel jeu, il y avait une phase de tuto, et il y avait un truc qui disait, ben, prends le fusil sniper et bute le mec. Et mon coloc ne prend pas le fusil sniper, il prend son couteau, il va buter le mec, et ça ouvre la porte suivante, parce qu'en réalité... Le déclencheur de la porte suivante s'ouvre, ah, c'est le mec meurt, c'est pas tu le tues avec un sniper. Et ce mec jouait tout le temps comme ça, c'est-à-dire qu'il cherchait tout le temps la faille pour aller plus vite, pour faire un truc plus marrant. C'est le gars qui va systématiquement trouver tous les safe spots pour tous les boss d'un jeu. Systématiquement trouver la stratégie qui va lui permettre de, voilà, de gagner super easy certains trucs. Alors il va passer énormément plus de temps qu'un joueur normal à essayer de battre un boss, mais quand il va le battre, il va le battre en prenant zéro dégâts parce qu'il s'est foutu à l'endroit où le boss peut pas le toucher. Voilà. C'est lui qui va profiter des collisions dans le décor. Voilà. C'est vraiment le trick player. C'est le mec qui va aussi tenter des stratégies un peu complètement folles. Des trucs qui ont une chance sur un million de passer. Ouais. Mais voilà. Mais quand ça passe, c'est juste magnifique. Et en fait, le gars, tout ce qui compte pour lui, c'est ça. C'est de gagner en ayant le truc le plus ouf possible. Le truc qui a une chance sur un million de passer, mais qui passe. Typiquement, c'est le mec qui, en tournoi d'échecs, va tenter le coup du berger, même si de toute façon tout le monde le contrôle.
On appelle ça un château.
Pas forcément, pas forcément. Parce que des fois, le mec a des stratégies ultra élaborées, mais simplement, faut qu'en face, ça se goupille tellement
place, ouais,
bien, il y a tellement de temps de mise en place et tout ça, que c'est pratiquement impossible d'arriver à les placer. Maintenant, quand tu les places, c'est la victoire garantie. C'est le genre de mec qui va chercher de la boucle infinie, quoi. Va chercher à dire bah, je fous le boss à terre ou je fous l'ennemi à terre, je lui mets un autre coup d'épée qui le paralyse, et ensuite je le remets à terre et je lui remets un coup d'épée qui le paralyse, et ainsi de suite. C'est le genre de joueur qui va essayer de casser toutes les orbes de machine là, hier soir.
Bah tu vois, ça marche.
J'y vais un peu dans les orbes. Ouais, ça marche, mais vraiment, fallait le tenter, quoi. Voilà, donc
bon,
Johnny,
c'est facile les orbes.
Les orbes, c'est fait. Ouais, mais moi au départ, j'avais rien compris.
Ouais, faut lui expliquer cette
fois. Moi, je suis très con. Moi, je me fais.
Il est un peu lent pour l'RPG.
Non, mais en plus, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Tu te rends pas compte. Moi, s'il y a plus de deux boutons déjà, c'est chaud. Mario, c'est bien, tu vois. Jeter le chapeau, sauter. C'est très bien. Pas besoin de plus que ça. Après, c'est trop compliqué. Déjà, se pencher, fait chier. Bon, et le dernier joueur qui en fait est le premier archétype que les mecs ont créé, c'est Spike. Spike, c'est le tournament player, c'est-à-dire c'est le compétiteur. C'est le joueur de tournoi, c'est le mec qui est là pour gagner, et puis c'est tout. C'est le gars qui va aller piquer les stratégies qui marchent bien, qui va avoir, alors pour Magic, il va avoir des decks préconstruits qui lui permettent de contrer tel ou tel type de joueur, ou c'est le gars qui va utiliser la stratégie du moment. C'est le gars qui va aller sur GameFAQs pour savoir comment faire pour aller battre tel ou tel boss, c'est le gars qui va pas forcément avoir la patience d'aller faire la recherche lui-même de comment je vais arriver à le faire. Non, ce qui compte pour lui, c'est d'arriver à battre le truc, et puis c'est tout.
Mais quand il va jouer un jeu, il va regarder la tier list des meilleurs personnages dans un jeu de baston, ça, ouais, et il va prendre le meilleur, quoi.
Il joue la méta, il se fait pas chier.
C'est exactement ça, c'est le gars qui va jouer Guile ou qui va jouer Ryu. Voilà, le mec réfléchit pas. C'est-à-dire que là, si on reprend le parallèle un petit peu avec...
Pour le coup, non, parce que ça dépend des Street Fighter, hein. Ryu, il est pas toujours le meilleur.
Street Fighter 4.
Street Fighter 4, du coup, ça dépend de la version.
Ultra Street Fighter 4.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mec, tu lui patches son jeu, il repart à zéro, quoi.
Bah, en fait, il va changer de perso, et puis Sagat, c'était le meilleur dans la première version, et maintenant, il va prendre Camille ou il va prendre Akuma, quoi.
Ouais, mais si on reprend sur un truc genre Street Fighter 2, voilà, c'est le gars qui va jouer Ryu. Typiquement, Timmy, c'est le mec qui va jouer un Zangief ou un Honda. Alors, c'est les personnages qui font des gros dégâts, qui font des gros.
J'aurais dit Ken.
Ken.
Bah oui. Parce qu'il a des points de feu.
C'est vrai.
Hey,
C'est vrai,
c'est
classe, les points de feu.
En vrai, Ryu et Ken, c'est plus des personnages de Timmy, parce qu'en fait, c'est les personnages les plus simples et les plus efficaces. Hein.
Les plus emblématiques. Donc ça fait du beau jeu.
C'est pas ceux avec lesquels... Enfin, tu vas me dire, Sagat, il est quand même assez violent. Et
Sagat, c'est presque un personnage de Timmy, mais dans beaucoup de jeux, c'est un très bon perso aussi, donc c'est aussi un personnage de Spike.
Voilà, bon bref. Et Johnny, c'est le mec qui va jouer Dalsim, mais qui va gagner en faisant que des téléportes et des yoga flames, quoi. C'est totalement improbable. Ouais, mais il va arriver à te les placer parce que, voilà.
Parce qu'il est trop bon.
Non, parce qu'il n'est pas forcément bon, c'est pas vrai, il n'est pas forcément bon. Voilà, donc ça vous donne des archétypes. Alors, à froid comme ça, on va commencer par Antix, puisqu'il fait le malin là depuis tout à l'heure.
Alors, on rappelle que tout le monde n'est pas juste un archétype, mais souvent un mélange des deux.
De deux, voire trois, dans certains cas. Il y a très 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 peu de joueurs qui sont juste un de ces archétypes en ce qui concerne Magic. On va voir que pour le jeu vidéo, ça a peut-être aussi ses limites, ce modèle-là, même si il y a quand même des parallèles très intéressants à faire. Après, on en a fait deux ou trois jusqu'à présent.
Après, on parle quand même d'un... Magic, on parle... Enfin, la petite nuance, c'est que Magic est un jeu qui est fait pour jouer avec d'autres joueurs, et donc d'avoir une certaine mentalité aussi sur le plan social, alors que le jeu vidéo, finalement, est aussi une activité qui se pratique en solitaire, ce n'est pas sale.
Comme la masturbation.
Et donc,
pas toujours.
Forcément, il y a une certaine limite aussi à ton profil de joueur.
C'est ça, en fait, c'est un petit peu... Alors, ça permet quand même, effectivement, d'aller vraiment catégoriser les gens, mais il va peut-être manquer deux, trois choses. Par exemple, dans le jeu vidéo, on a souvent tendance à considérer qu'il y a des joueurs qui aiment le narratif et il y a des joueurs qui aiment l'action, en fait, qui jouent au jeu pour l'histoire, et il y en a qui jouent au jeu pour le...
Comment dire,
pour le côté aventure. Non, mais typiquement, ce que te demande un Deus Ex au début d'un jeu, c'est... Il y a trois niveaux de difficulté. Il y a « Give me a story », qui est vraiment... Bah, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'histoire,
donc
histoire interactive, finalement. Donc ce qui m'intéresse, c'est la narration.
Donc les combats très très simples.
Donc des combats extrêmement simples, très faciles, et finalement, t'en as pas grand-chose à foutre. Tu as « Give me a challenge », qui est « Non, bah, je veux l'histoire, certes, mais je veux quand même aussi m'amuser, je veux quand même faire de l'infiltration, je veux quand même buter des mecs. » Et après, il y a « Give me Deus Ex », qui est le mode un peu « Ok, là, on va te mettre une belle branlée. » Et finalement, Mass Effect fonctionnait un petit peu de la même manière. T'as trois niveaux.
Parce qu'à partir du 3, ils l'ont mis le niveau story, mais...
Voilà, non, mais t'as pas de... Oui, effectivement, c'est qu'à partir du 3 qu'ils l'ont mis, mais t'avais cette même catégorisation qui est... Il y a des gens qui veulent suivre l'histoire, et finalement, les scènes d'action, ça peut être des cinématiques, ça les dérange pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est les dialogues. T'as les gens qui vont faire toute l'expérience de jeu, c'est-à-dire vont faire à la fois les dialogues et à la fois l'action. Et t'as les gens comme moi, où les dialogues, ça les intéresse pas tellement, donc ils ont pris juste la version action. Disons, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de bourrer comme un sac.
De taper.
L'histoire, c'est bien, mais l'histoire est une cinématique. C'est là que tu vois des profils de joueurs un peu différents aussi et qui ne correspondent pas forcément à Timmy, Johnny ou Spike finalement. C'est qu'est-ce que tu apprécies dans un jeu. C'est ce qui fait que ouais, une expérience solo va peut-être pas forcément énormément s'adapter à ça. Par contre,
ça va dès dépendre que t'as un jeu... La complexité de l'expérience solo aussi, si c'est un truc où tu vas avoir beaucoup de choix, genre on va revenir sur les RPG ou même Bayonetta, tu vois, où t'as le choix des armes. Tu vas aussi choisir ton équipement en fonction de ce que toi t'apprécies en fait dans le ce qui te plaît aussi, ce qui te parle. Donc je pense que là on peut retrouver des profils de joueurs.
Effectivement, ça fait partie des jeux solo, mais tu vois c'est pas un jeu dans lequel, c'est un jeu dans lequel finalement on te donne pas le choix de cette histoire de narration, tout ça. T'as un petit peu de narration, t'as de l'action et puis voilà, mais c'est quand même essentiellement orienté action. Mais effectivement, tu peux retrouver ces archétypes-là. Tu peux avoir des Timmy qui vont bien aimer jouer la faux, le fouet, les haches, la tronçonneuse, le lance-roquette. Enfin voilà, les armes qui font des gros dégâts. T'as des Johnny qui vont plutôt effectivement essayer de jouer des combos infinis ou des choses comme ça. Et t'as des Spike qui vont juste aller dire bon, ben pour battre ce boss-là, il faut faire comment. Ah ok, le point faible c'est ça, le timing c'est ça. Voilà. C'est effectivement des joueurs, des jeux qui se prêtent très bien à ce genre de définition d'archétype de joueur.
Donc du coup, c'est moi qui commence.
Du coup, c'est toi qui commence. Alors, est-ce que tu penses que tu es un Timmy, un Johnny, un Spike, ou un mélange de deux, ou même des trois? C'est-à-dire que tu serais l'oiseau rare.
Je pense pas que je sois les trois, honnêtement. Enfin, je me retrouve beaucoup plus dans le Timmy que dans les deux autres. Ça, c'est sûr, parce que j'aime bien aussi le côté un peu show-off, t'essaies de faire des actions un peu éclatantes, et c'est le côté qui est cool. J'aime bien le côté créatif, de faire des trucs un peu tricky, ça me plaît aussi. Et je suis peut-être un petit peu moins dans l'efficacité, parce que moi, un jeu, ça reste un jeu, et je suis pas très... Enfin, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'être un joueur à tendance compétitive dans les jeux vidéo. Après ma lointaine période Smash Bros. Je pense que je suis plus un Timmy avec une petite tendance Johnny, ne serait-ce que parce que le personnage que je joue dans Smash Bros, dans le dernier, c'était Darren. Darren, c'est clairement un personnage de Johnny avec un bon côté de Timmy sur la violence des coups.
Cette phrase, pardon.
T'as vu, hein. Donc, power player, aime bien la puissance, mais aime bien aussi jouer un petit peu du trick play pour rigoler.
J'aime bien customiser mes mecs, essayer de trouver des combinaisons qu'on a rigolotes à faire pour faire des trucs un peu pétés, et essayer de placer des combos sympathiques. Hein. Clairement, ça faisait partie du truc qui m'a mis dans Xenoblade, c'est d'agencer l'équipe pour avoir un truc qui permette de faire des combinaisons balèzes, quoi. de voilà, faire plein d'orbes et de casser toutes les orbes pour virer la moitié de la vie du mec en une seule fois.
Voilà, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien.
Ce qui est très satisfaisant.
Et quand tu arrives à casser le... quand tu arrives à décrocher le petit Mickey, tu gagnes un tour supplémentaire et ça c'est la classe.
Non mais clairement moi il y a un truc que j'adore dans les jeux vidéo, enfin en tout cas dans ceux où il y a ce genre de feature, c'est genre les gros chiffres qui apparaissent à l'écran, tu vois. T'as genre un 2000 qui apparaît alors que tu tapais à 100 jusqu'à présent, c'est trop trop drôle.
Enfin, moi, t'es le genre de gars qui va kiffer les Dodonpachi où tu peux faire des scores à 25 millions de points par niveau, même si ça veut rien dire parce que voilà.
Il y a plein de boulettes. Ouais, non, il y a plein de couleurs, plein de feux.
Non mais c'est rigolo, effectivement, il y a pas mal. Timmy, c'est quand même c'est intéressant aussi parce que c'est effectivement des gens qui aiment bien avoir des trucs balèzes, quoi. Voilà, c'est tout, qui aiment bien quand ça en jette et puis voilà.
Bah, les gros chiffres à l'écran, c'est cool.
Les gros chiffres, les grosses explosions.
Ça fait partie du truc que j'ai kiffé dans Xenoblade, c'est que t'avais des chiffres et puis t'en avais des gros hein, à l'écran. Le 2 millions qui arrive quand tu as fait ton combo à 5 orbes, t'es. Ah ouais, j'aime si beaucoup.
Sketchot.
Je dois avouer qu'effectivement, hier soir, le 500 000 sur Valjean.
Ah, il t'a fait plaisir celui-là.
Ah, et après, je me suis demandé, mais combien elle avait de points de vie, cette connasse?
Pas beaucoup.
Mais beaucoup trop, quoi. D'ailleurs, ça devenait un peu ridicule.
Et nous, sur le chat, balance ton enchaînement.
Mais le pire dans Xenoblade, c'est que non seulement t'as les chiffres qui apparaissent à l'écran, mais en plus t'as la voix derrière qui fait waouh, incroyable!
Oui, c'est façon shonen, tu vois.
Et ça te galvanise encore plus dans ce que tu viens de faire.
Même si t'as fait de la merde, tu vois, t'as fait un enchaînement tout près, elle fait waouh, c'est complètement fou le pouvoir de son ki. Enfin, tu vois, c'est. Mais tu vois, c'est les jeux avec des passages Chevalier du Zodiac. C'est, putain, j'ai jamais vu un cosmos aussi gros et poilu! Et à quoi ça? C'est vraiment comme ça que ça se passe, quoi. Bon, bref. Ouais. Drosgar, est-ce que tu es plutôt Timmy, Timmy ou Spike? Toi, je te vois bien en Spike, le connard, tu vois.
C'est pire que ça, en fait, je suis aucun des trois.
Oh non, ça n'existe pas, Drosgar, ça n'est pas possible.
Bah, en fait, si vous voulez, j'ai un gros problème, c'est que j'adore les jeux vidéo, mais je suis mauvais.
Dis l'homme qui m'a battu à FIFA, qui m'a battu à ARMS.
Non, mais c'est un coup de chance.
Parce que t'es un vieux, c'est ça? C'est ça, c'est du racisme anti-vieux, monsieur.
T'as plus de réflexe, t'as de l'arthrose dans les doigts, c'est. Non, en vrai, j'aime pas trop, justement, quand c'est trop voyant, etc., comme les Timmy. Même si je joue Captain Falcon sur Smash.
Bon, donc je suis clairement un Timmy, mec, cherche pas.
Non, mais. Il est en rose. Il est en rose. C'est
alors
tous.
Justement, c'est plus fâchis. Si t'es pas un truc voyant, tu te prends en rose.
Je passe beaucoup de temps sur Smash en fait à jouer en aléatoire parce que j'aime beaucoup Captain Falcon parce qu'il est assez rapide. Du coup, je joue pas mal avec Shake ou avec Samus Zero Suit aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas de perso en fait qui m'a relativement en fait accroché à fond dans le gameplay. J'en ai pas un vraiment qui m'a transcendé.
Juste me permettre, si tu joues en aléatoire. Tu serais peut-être plus un Johnny.
Un Johnny.
Ouais. Un Johnny, ça correspondrait bien à quelqu'un qui joue systématiquement en aléatoire. C'est-à-dire, pour toi, l'important, c'est pas forcément de... Tu aimes gagner, pas de souci.
Ouais.
Mais l'important pour toi, c'est de gagner avec le style. C'est un peu le défi. C'est un peu ce qu'on disait.
C'est-à-dire,
finalement, c'est aussi amusant. Le jeu est aussi amusant que ce qu'il y a autour du jeu, le fait d'être créatif. Et le fait de jouer en aléatoire, ça te force à t'adapter, ça te force à être créatif. Ça... Voilà. Donc, Johnny correspondrait un petit peu.
Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, j'aime beaucoup les jeux de stratégie ou de gestion. Donc, d'un côté, j'aime bien tout ce qui est optimisation, ce genre de choses. Donc, ça peut s'approcher de Johnny, ça aussi.
Voilà, tu vois, finalement, t'es pas aucun des trois. Il y a au moins un petit peu de Johnny, ça c'est sûr.
Je pense que t'es quand même un bon Timmy, hein, quelque part. Il y a un petit Timmy au fond de toi.
T'es quand même un bon Kiki Bouboule. Hein.
T'as un bon petit Timmy. Bah attends, il aime Falcon. Hein.
Ouais, non, mais il aime Falcon, mais il a dit qu'il joue en aléatoire. Moi, je joue assez souvent en aléatoire. Quand je joue avec mes collègues à Street Fighter 2, on fait un mode qui manque énormément à Ultra Street Fighter 2, Capcom, si tu nous écoutes. Qui est le mode de tournoi. Alors je sais que dans le Capcom 30e anniversaire, il y en a un.
Ouais. Voilà, parce qu'on aura pas Street 4.
Mais il y a un mode tournoi, en fait, où tu fais élimination. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets 5 personnages en random. Donc les 5 personnages sont choisis en random pour chaque joueur. Et en fait, celui qui n'a plus de personnages perd. Il y a juste un round par personnage. Et du coup, c'est un mode qu'on aime bien, parce qu'en fait, on est vraiment effectivement obligé de s'adapter. Et tu deviens vachement versatile, en fait. C'est-à-dire que tu apprends à jouer un petit peu bien tous les personnages. Et en fait, des fois, t'as pas de bol, bah, le mec tombe sur Sagat en premier, donc il t'élimine 2, 3, 4 persos avant qu'il arrive, et du coup, bah, il y a un petit peu de suspense, c'est un peu rigolo.
J'avoue que j'aime bien jouer aussi en aléatoire, justement sur les jeux que j'ai quand même bien, enfin, sur lesquels j'ai quand même pas mal joué, parce que c'est drôle. Bah, Smash Bros, honnêtement, mêlé, au bout d'un moment, je fais que de l'aléatoire, parce qu'autrement, je tournais en rond aussi, hein, sinon. Il y a aussi ça.
À moins d'être contre des mecs qui sont vraiment bons, au final, tu t'ennuies un peu.
Bon voilà, Drosgar, quand tu joues à Pokémon,
oui,
que tu joues contre des gens, est-ce que tu préfères avoir un Tortank qui fait des attaques grosse flotte, je connais pas le nom des attaques, ou est-ce que tu préfères aller faire une équipe de petits, tu sais, de petits malins, de petits charognards, de petits gars qui vont faire genre haha, je vais te mettre un handicap, ça va te rendre sensible au feu, puis derrière tu sens un Pokémon feu, haha, voilà, tiens, tu l'avais pas vu venir.
Et bah le problème, voilà, dans Pokémon par exemple, j'aime pas jouer contre des gens parce que c'est trop dur, parce que je suis trop mauvais.
Mais quand
du coup, j'aime pas qu'il y ait trop de défis. Ouais, mais voilà, contre l'ordi c'est facile en fait. J'aime bien, j'aime plus l'univers que le jeu en lui-même. Grosse révélation.
Révélation de ouf, Guedin.
Je crois qu'il est en train de dire qu'il aime pas jouer à Pokémon.
Oh putain, il est en train de faire son coming out.
C'est pas ce que j'ai dit, mais Digimon, c'est pas mal quand même.
Il aime bien le Kaiba.
Mec, celle-là, elle va aller sur le mur du dojo. Fais gaffe.
Putain.
Il va jouer à Yo-Kai Watch aussi.
Ah merde, non, tu déconnes. Bon, Mecton. Alors, Timmy, Johnny ou Spike?
Alors, gros Johnny, tendance Timmy.
Sur le super play, sur le super play des céréales Mario, on sent le Johnny quand même.
Ouais, mais quand même, les petits effets caméra et tout, c'était Timmy, ça, il voulait en jeter.
Ça dépend, est-ce qu'il a fait la strat la plus efficace? Parce que c'est un Spike hein, s'il fait ça.
Est-ce que t'as recherché pour la strat la plus efficace?
Justement,
est-ce que tu t'es entraîné?
Est-ce que
t'es allé voir sur les internets?
Je suis détenteur du record mondial de Mario Cereals, étant tout seul dans ma catégorie.
Catégorie où seulement le téléphone dans l'autre.
Non, mais justement, tu vois, je me sens vraiment Johnny dans le sens où bah, j'aime bien. Ouais.
Parce que t'as quelque chose en toi. Ouais,
c'est ça. Ok.
Je suis désolé, je tiens à m'excuser. Non, alors je tirerai les leçons de cet échec et me retire définitivement du dojo. Non, mettons donc Johnny, plutôt
Même dans les jeux solo, j'aime bien essayer de tordre les jeux, essayer de découvrir mes propres conneries. D'ailleurs, c'est en train de me faire penser, j'ai fait péter des câbles à mes coéquipiers toujours dans notre grosse période League of Legends où je jouais le support. Et régulièrement, les mecs me disaient, mais arrête de faire nimp. Je disais, mais attends, personne l'a testé. Si ça se trouve, c'est overplay, quoi.
Il est tout à fait le genre de joueur relou, quoi. Tu sais, le gars, il est support, il est censé soigner. Puis il est là, genre, non, mais attends, je vais prendre la hache. Et puis je vais.
Ah, c'est ça.
Ta gueule, soigne.
C'est le Jobar player, quoi. Si ça passe, c'est beau.
Okay, donc on a clairement affaire à un Johnny.
Ouais, non, vraiment, en fait, je me retrouve bien là-dedans.
Et donc, toi, t'es le genre de mec qui a tenté de faire les sanctuaires de Zelda en passant par-dessus les portes que t'étais censé ouvrir avec les aimants.
J'ai tenté. Et ouais, je reviens vite fait quand tu disais chercher sur Internet. Pour le coup, quand je bloque sur une connerie où j'arrive pas à trouver de soluce, aller regarder un tuto ou un bout de let's play sur YouTube, c'est presque un aveu d'échec pour moi.
D'accord, donc pas du tout du genre à te dire, de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat et peu importe la forme. C'est vraiment, t'as
le
envie de trouver par toi-même.
Quand même, j'ai quand même envie d'avancer et puis que ça a un minimum de classe. Mais il faut que ça vienne de moi.
Alors, je peux te donner une astuce, c'est te faire carry par le chat de Twitch. Ça marche super
bien. T'as vu, ça marche.
Moi, je sais que j'aurais jamais progressé comme ça. J'aurais jamais compris comment fallait jouer, donc... Je suis vraiment un gros con, en fait. Je sais pas s'il y a un gros con dans les archétypes de joueurs, c'est le dumb player. Le mec, il comprend jamais rien, de toute façon, il joue comme on lui dit, quoi. Ça doit exister. Et mon petit Zergy, qui fait le malin, là, depuis tout à l'heure, qui dit rien.
Je sais pas du tout.
Alors, est-ce que tu aimes les... Alors, tu joues Zerg, quand tu joues à StarCraft.
Non, même pas.
Même pas.
Non, je jouais plutôt aléatoire, et ça fait bien longtemps que j'y ai pas joué.
Donc, on est plutôt sur un Johnny. Hein. Mm-hmm. Peut-être légèrement Johnny. Quand tu joues à un jeu de combat, t'as plutôt tendance à prendre les gros costauds ou t'as plutôt tendance à prendre...
Je joue pas au jeu de combat, j'aime pas.
Oh putain, t'es le mec chiant, tu sais, qui me paraît bon.
Est-ce que tu joues au jeu
de combat? Moi, je joue à des Walking Simulator.
Du coup, putain. Clairement, Johnny, je sais... Non. T'es
non,
pas
je...
connard dans le...
Je sais pas du tout. Non, franchement, je pourrais pas dire.
Mais je sais pas, qu'est-ce qui te fait triper dans un jeu? T'as déjà joué un truc genre Bayonetta ou quelque chose comme ça?
Un petit peu à Bayonetta, mais pas tellement, faudrait que je m'y remette. Alors, en fait, le truc, c'est que je joue jamais pour la compète, donc...
D'accord, donc pas Spike,
donc,
c'est sûr.
Donc de toute façon, pas Spike, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est voilà, tu joues à Smash Bros, tu vas plutôt prendre le mec qui a les gros points, qui fait des gros dégâts, en mode ça fait des explosions partout sur l'écran, ou tu vas préférer jouer le petit gars normal mais qui s'en sort bien?
Peut-être plutôt le gars normal, je dirais.
Non, on a peut-être un petit Johnny aussi. Ouais. On a peut-être un petit Johnny aussi. Faudrait que tu t'analyses un petit peu plus, mon petit Zergy.
Un Johnny refoulé.
Cherche en toi profond.
Un Johnny refoulé. Vous êtes horrible, en fait.
Et donc, toi, mon petit mortal, alors?
Ah, moi, clairement, je suis un Timmy, hein.
Ah, ça, je vous le confirme, mais tellement.
Moi, ça lui a gratte les couilles, hein, ouais.
Je suis un gros kéké bouboule, moi. en vrai, ouais, clairement, je suis un Timmy, quoi. J'ai aucune race. Je dirais Timmy avec un poil de Johnny, c'est-à-dire que moi le côté créatif d'un jeu me gonfle. Et typiquement, je suis pas capable d'aller jouer à Minecraft. Je sais pas quoi faire et ça faut me donner un objectif, moi sinon je sais pas quoi faire. Par contre, j'ai adoré SimCity ou des jeux comme ça. C'est très étonnant. J'ai toujours eu un dégoût profond des jeux où c'est le joueur qui doit vraiment s'investir dans le jeu pour arriver à faire quelque chose. Donc typiquement Minecraft, c'est ce que tu en fais. Il n'y a pas vraiment d'objectif du jeu. Alors qu'un truc comme SimCity me dérange moins. Voilà. Mais j'aimais bien, dans SimCity, faire des montages un peu hallucinants pour voir si ça marche. C'est genre me dire, tiens, si je mets toutes les deux cases une police, est-ce que je peux me permettre d'en mettre qu'un rang sur deux en faisant en quinconce comme ça et en essayant des trucs un peu hallucinants.
Ah bah c'est un peu Spike, ça, quand même.
Non, c'est pas, c'est non, pas forcément...
Non, un peu Johnny, pardon.
Oui, c'est un peu Johnny. Mais je te dis, mais j'aime bien les trucs qui font mal. Moi, dans Bayonetta, je joue la faux et... faux au point et les lames au pied parce que je trouve ça rigolo, ça fait des gros dégâts et je sais très bien qu'en termes de DPS c'est ridicule par rapport à prendre le fouet qui fait juste super mal ou à prendre le bazooka qui fait juste super mal, mais j'aime bien la faux parce que ça fait genre shling et puis t'as l'impression de découper les mecs en deux. Moi c'est juste ça qui me fait triper, tu vois. Donc ouais, je suis un gros kéké. Je suis le genre de gars, alors je suis le genre de gars qui va effectivement qui va prendre trois lames qui ont cinq couronnes dessus, elles n'ont aucun rapport les unes avec les autres et que ça n'a aucun intérêt.
Antique sur le chat, combo. Il était en train de galérer sur un combat, on lui disait mets un tank sur Rex, il disait non, rien à foutre, je garde trois attaques.
Je veux que le mec il le sente passer au bout d'un moment. Ça m'intéresse pas, moi, de mettre un tank. Je vais pas mettre un tank sur Rex, ça n'a aucun intérêt.
Je suis d'accord, hein. Moi j'ai juste mis un healer à la fin du jeu.
Ah putain, yeah. Le bâtard. Non mais en plus, non mais tu vois, c'est le genre de voilà, moi ça me fait bien triper de jouer effectivement Mitra, ça me fait marrer parce que voilà, le photon le photo il déboîte tout, quoi.
Et puis il attaque tout le monde partout.
Oui, non mais c'est ça. Moi ce qui me fait triper c'est ça, et il y a quelques combats notamment que j'ai fait hier sur Twitch. Alors j'ai fait beaucoup de Xenoblade 2 depuis la semaine dernière parce que je peux le faire, en fait j'ai vraiment l'opportunité de faire beaucoup de Xenoblade 2. Non, c'est pas le chômage. Il y a quelques... C'est... Non, c'est j'ai pas ma femme.
C'est un peu le chômage aussi, non?
C'est une autre forme de chômage.
C'est une autre forme de chômage. Mais en même temps, je suis obligé de m'occuper des enfants, donc c'est pas si chômage que ça. C'est une autre forme de galère.
Notre forme de travail.
C'est une autre forme de travail. Mais voilà, ce qui me fait marrer, moi, c'est que ça fasse boom, que ça fasse pan et que ça fasse plein d'explosions à l'écran avec des gros chiffres. Voilà, c'est ça.
Merci, tu comprends, Mortal.
C'est vrai. Moi, je comprends l'attrait de ce genre de jeu au sens l'histoire est chiante. Faut quand même.
Il suffirait qu'ils mettent des chiffres dans les cinématiques.
C'est pour ça qu'on joue à des shoots avec. Joue à des shoot 'em up avec Mortal, c'est pour les chiffres et les explosions.
C'est ça. Non, mais moi, ce qui me frustre énormément dans un jeu comme Xenoblade, c'est le fait, par exemple, que tu t'es en train de taper un boss. Et je l'ai dit plusieurs fois, en fait, au cours du truc que j'ai fait. T'es en train de taper un boss, tu le fumes, mais tu lui déboîtes bien sa mère, quoi. T'es content, tu lui as mis une bonne, il l'a pris bien dans le cul. Et pendant la cinématique, il se relève et puis il fait genre ah, tu ne mourras pas, tout ça. Et moi, ça me fait chier, putain, j'ai niqué.
Tu ne peux pas me vaincre, Rex.
C'est ça. Non mais c'est ça. Et moi, ça m'emmerde parce que je l'ai bu et baisé le cul.
Oui, c'est ça. Moi aussi, ça m'a fait chier au bout d'un moment. Surtout quand c'est toujours pareil après 80 heures de jeu.
Là, c'est un peu emmerdant. Donc, si tu veux, voilà, le hipster à qui j'ai mis quand même une belle carotte, j'étais content. J'étais content de mon combat, tu vois. J'ai dû recommencer deux ou trois fois parce que je suis vraiment une quiche. Et en fait, quand j'ai gagné.
Sûr qu'on dit wish.
Oui. une wish.
C'est impossible. Et voilà, quand j'ai gagné. J'étais content parce que je lui ai vraiment bien défoncé sa gueule de con. Pas de problème. Donc j'étais très content de moi, même s'il a fallu que je recommence trois fois.
Alors, il ressemble à un certain journaliste.
Nous l'appelons Julien Chiez, en tout cas. Mais derrière, j'étais très frustré parce que il était. Ah, j'ai fait semblant de dire que j'étais mort. En fait, il était pas mort. Putain de relou.
C'est tellement ça.
Voilà. Donc clairement, Antix, je te rejoins là-dessus. Je suis un gros Timmy, mais avec quand même un petit bout de Johnny derrière parce que j'aime bien faire des trucs un peu. Bah, tu sais, c'est l'épreuve de Mario Odyssey où faut faire la corde à sauter pendant 100.
Ah, tu l'as fait au bug, toi, oui.
Moi, je l'ai fait au bug parce que au bout d'un moment, ça m'a gonflé.
C'est très Spike le bug, du coup.
Non, Johnny, le bug, Johnny. Je trouve pas que ce soit très Spike. Je trouve
bah,
que
en
c'est...
fait, le...
enfin, j'ai recherché trouver pour le bug, mais trouver le bug, c'est très Johnny.
Trouver le bug, c'est Johnny. Utiliser le bug pour passer, c'est Spike.
D'accord, oui.
Ouais, voilà, mais moi, ouais. En fait, c'est juste que ça me faisait marrer d'aller exécuter le bug et j'ai fait d'autres trucs avec derrière en me disant, on peut peut-être faire d'autres trucs marrants. Mais voilà, utiliser un bug, ça me dérange pas. J'aurais préféré le découvrir moi-même. Mais voilà, simplement le fait de comprendre comment faire la manip, c'était aussi intéressant d'essayer de voir comment se débrouiller pour aller se placer idéalement pour le faire. Bref,
yeah.
Pour conclure, je vous invite, chers auditeurs, à faire vous aussi ce petit exercice, à vous dire, est-ce que je suis un gros kékébouboule qui roule dans une Twingo violette avec une jupe
des
et un
flammes.
Spoiler, des flammes sur le côté.
Bah, techniquement, ou... le Timmy, c'est plus le conducteur de 4x4. Hein.
C'est pas la Twingo, on est d'accord.
Alors que le Johnny, lui, va plutôt être un petit peu un bolideur.
Bah, le Johnny, c'est le mec qui se radine avec une Twingo dans une course
non,
de Formule 1 et qui gagne.
Non, c'est le mec qui a pris une Twingo, qui l'a bolidée et qui se ramène à une course de Formule 1.
Ouais, c'est ça.
et qui clip à travers les virages.
Et le Spike, c'est un mec qui a pris sa Formule 1.
Bah, qui a été prendre la Formule 1 et qui a même demandé à Ferrari directement d'avoir le moteur. Quoi.
Bah, il a tout essayé, il a regardé les meilleures races sur internet et il a acheté la plus grosse et la plus rapide qui marche en ce moment.
Mais voilà, non, mais tu vois, typiquement.
Il est allé sur les numériques.
Mais attends, vous avez dit...
Non, mais le Spike, il analyse son jeu à travers du Excel, quoi, en fait.
Non, mais c'est ça.
Oui.
Mais attends, typiquement, c'est le genre de joueur qui effectivement va kiffer les 4X. Alors que moi, je trouve ça chiantissime.
Trop bien, les 4X.
Non,
bien,
c'est,
ouais.
C'est, enfin, moi, je trouve ça. Je trouve
bah,
ça
en fait,
chiant,
les
jeux de gestion comme Football Manager.
Mais par les meilleurs, si vous voulez.
Mais justement,
là.
Non, mais justement, les trois types de joueurs peuvent apprécier les jeux de gestion ou les 4X, c'est juste qu'ils vont pas le faire pareil.
Oui, on est d'accord. Mais
le Johnny va prendre Gandhi, il va faire la guerre à tout le monde. Le Timmy va prendre Bismarck, il va faire la guerre à tout le monde.
Alors que le Spike va se dire quelle est la meilleure armée, celle-là, vite, il faut que je la fasse évoluer.
Le Spike va se dire c'est quoi la méthode la plus facile pour gagner civilisation et il va faire une victoire culturelle.
C'est ça.
Putain, c'est
avec le Brésil.
C'est d'une tristesse, c'est d'une tristesse. Bref, je vous invite quand même à faire l'exercice. Et c'est vrai que sur Xenoblade 2, je trouve que c'est assez significatif parce que tu peux vraiment avoir les gens qui vont aller analyser toutes les stats et aller mettre. La bonne bouffe dans la sacoche à Jacqueline pour qu'elle kiffe et qu'elle gagne des niveaux en culture nos ponts. Pour donner un exemple. Ta gueule.
Des saumons.
Et.
Ça va des saumons.
Ah oui, tu l'as fait en japonais, toi.
Ah bah oui, bah, je crois que les accents anglais, j'aurais pas supporté très longtemps.
Ah, ça passe bien.
Ah, j'aime bien.
Mais bref, voilà, c'est le mec qui va aller analyser absolument toutes les stats et machin, alors que le Timmy va se dire c'est quoi la plus grosse lame? C'est celle-là. Ok.
Un peu.
Bah Timmy va utiliser que les lames rares.
Oui, mais moi c'est ce que je fais.
C'est ce qu'il fait.
Parce que j'en ai rien à foutre des autres.
Et puis à la fin. Et puis à la fin, tu vas appuyer sur plus et faire l'enchaînement et faire 2 millions de dégâts.
Ouais.
Michael Bay.
C'est exactement ça. Je suis horrible en fait. C'est vraiment atroce. Bon bref, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Donc je vous invite à faire l'exercice, à essayer de deviner si vous êtes un Timmy, un Johnny, un Spike. On vous a donné à peu près toutes les clés pour le savoir. Il y a Magic, The Gathering, les mecs qui ont fait les cartes Magic, donc Wizards of the Coast, qui ont fait tout un tas de questionnaires disponibles en ligne qui permettent d'aller déterminer ça. Alors, c'est pas que des exemples à travers Magic, il y a aussi d'autres types d'exemples. Mais évidemment, si vous avez joué à Magic, ça va vous simplifier. Les mecs vous demandent genre, c'est quoi votre carte préférée à jouer après celle-là? Oui, non, effectivement, si t'as pas joué à Magic, c'est un peu compliqué. Mais voilà, t'as plein de petits questionnaires qui permettent de déterminer ça, et effectivement, on se retrouve souvent avec un mélange des deux. Vous avez des Timmy Spike, vous avez des Spike Johnny, vous avez des Spike Timmy, vous avez voilà, tout un tas de combinaisons possibles, et y compris des joueurs qui sont un peu les trois. Et à ma connaissance, il n'y a pas de joueurs qui sont aucun, contrairement à ce que pense Drosgar. Hein, voilà. Tu n'es pas unique, monsieur, tu es un Johnny.
Mais c'est dommage. Pour être aucun, faut pas jouer.
Oui, voilà, en fait, faut pas jouer du tout.
Mais
du
vraiment
tout, du
pas
tout.
Jouer, tu vois, genre... Tu fais pas de jeux de rôle, tu fais pas de jeux de société, tu fais rien en fait, tu lis des livres. Ce qui est bien aussi, mais tu joues pas.
Voilà, sinon tu entres forcément dans une de ces catégories de plus ou moins loin. Alors effectivement, il y a, comme on l'a dit.
Pour oui, les jeux, il y a des manières de rapprocher. Voilà.
Il y a certains, on va dire certaines catégories qui sont, certains jeux dans lesquels tu pourrais pas catégoriser les gens et effectivement les expériences sont un petit peu différentes. Mais dès qu'il s'agit de jeux avec un petit peu de compétition ou de scoring ou de, voilà, on arrive souvent dans des archétypes de ce type-là.
Bah, à partir du moment où t'as des équipes à créer, des personnages à adapter et des stratégies à créer, ces types vont s'y retrouver. Par contre, oui, c'est clair qu'un Edith Finch, qui est un walking simulator, donc finalement, qui est un petit peu une expérience narrative très cinéma, très, très bouquin, très linéaire, où t'as pas trop de choix à faire, ben, là, c'est plus compliqué.
Si, tu peux être intimidé, je veux dire, tu ne marches pas, c'est pas un walking simulator, c'est un sautillon joyeusement dans les bois simulator.
Non, non, en fait, toi, tu fais des explosions quand tu marches.
Michael Bay présente.
Il y a des gros chiffres à l'écran.
Mais franchement, moi je trouve que machin of Edith Finch là, The Death of Edith Finch, je sais même plus comment il s'appelle le jeu.
What Remains.
Ouais, What Remains.
Ce qui reste d'Edith Finch, pas grand chose a priori donc.
Des explosions.
Moi franchement, il y aura des gros chiffres à l'écran avec des explosions, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Faudrait peut-être faire un mode, tu sais, le mode What Remains of Edith Finch Interesting Edition. Je pense que ça passerait bien. Ah, bref. Bon, allez, on va se quitter là. On va vous retrouver la semaine prochaine. J'ai une petite surprise pour vous sur Twitch vendredi.
Oh.
Ouh, on va jouer à Wave Race. Ouh.
Ouh.
Et peut-être que la semaine prochaine, on parlera de Wave Race et de 1080, parce que ça fera une petite émission rétro. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas vu. Ta gueule, le chat. Je suis désolé, le chat ouvre sa gueule. Voilà, il me gonfle.
Je t'emmerde, mortal.
Tu m'as dit de me taire, du coup je miaule parce que je sais que tu peux pas bouger.
Depuis qu'on a plus le chandin, de toute façon.
Vous qui êtes triste.
C'est notre seul auditeur, il nous écoute du paradis.
Oh.
C'est mignon. Petit ange parti trop tôt. Bref.
Attends, ouais, en fait il fait du teasing Nintendo Labo, le chat là.
Ah, j'ai pas regardé la dernière vidéo Nintendo Labo. Hein.
La guitare à élastique, tellement bon.
Ah oh, oui.
Ah, y'avait pas une autre depuis ?
Ça va être énorme. Non, non, je crois pas.
Ok, bon bah tant pis alors.
Mais vous inquiétez pas, on finira par parler de Nintendo Labo, ça arrive.
Boom, 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 boom.
Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao tout le monde.
Bye.
Salut.